Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabien. Fabien, ça va la pêche?
Hello.
Et nous sommes également avec Flavie.
Coucou.
Aujourd'hui, nous allons vous faire tenir une promesse, j'ai envie de dire. Nous avions promis la dernière fois que nous testerions Ghost Echo et c'est ce que nous allons faire. Fabien, tu as apporté le jeu dans ta besace. Qu'est-ce que Ghost Echo?
Ghost Echo est un jeu de John Harper.
T'es sûr que c'est pas Ben Harper?
Sûr que c'est John. Ah,
merci. Cette fois-ci, au moins, j'ai fait gaffe de pas me tromper. De John Harper, qui a aussi fait Lady Blackbird, qui a fait Agon, il me semble aussi, ou Agon. Enfin, l'autre.
Pas le Agon de Matthew Gaborit et de Multisim, mais l'autre Agon. Sans eux, il me semble. Agon, en fait.
Agon, ouais. Qui est un jeu. Donc, Ghost Echo. Alors. On va s'appuyer sur la traduction qu'a fait Greg Pogor, qui est une traduction en français, qui est disponible d'ailleurs, je vous invite à aller sur son blog pour la trouver, puisque Ghost Echo est un jeu qui est gratuit et qui a le mérite d'être en deux feuilles A4.
Enfin, c'était un peu déjà le cas pour les Blackbird, voilà. C'était pas long. Et
très court, mais alors Ghost Echo c'est encore plus court. Donc ouais, ça fait un peu de la, c'est un peu comme Zombie Cinema aussi, qui est un jeu très très court. Tous ces jeux voilà qui sont extrêmement courts. Ce qui est intéressant dans Ghost Echo, c'est que donc c'est un jeu dans lequel vous jouez plus ou moins des gens de chasseurs ou de récupérateurs qui vont se promener dans un monde qu'on appelle le monde spectral, et dans lequel il y a des spectres qui vous poursuivent et vous veulent du mal. Les illustrations, donc il y a deux pages. Les illustrations suggèrent beaucoup un monde un peu cyberpunk, voire peut-être steampunk, enfin c'est pas très évident.
Un monde valérien en tout cas.
Valérien.
Je trouve que les illustrations sont très valériennes.
Ah,
De Valérie Notavon que j'entends. Ouais, pardon, excuse-moi.
Les inspirations sont Vincent Baker pour...
Je suis désolée. Vincent Baker.
Voilà, Dan Aykroyd, donc l'acteur de, si je me trompe pas, Ghostbusters. Voilà. Les sœurs Wachowski et.
c'est vrai, maintenant c'est des sœurs.
Jordan Weissman, qui est l'auteur de Shadowrun et aussi Earthdawn. Donc la référence aux Wachowski est intéressante parce que ça renvoie un peu à Matrix, très fortement, avec un peu ces deux mondes dans lesquels on se promène de l'un à l'autre. Et puis le côté un peu, référence à Shadowrun, hein, le côté un peu punk, entre guillemets, c'est-à-dire on joue une bande de gens qui ne peuvent tenir que l'un à l'autre. C'est un jeu... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu à unzipper, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est... On te donne... T'as un système relativement complet de résolution,
ouais.
Mais l'univers est résumé à une page pour l'univers et une page pour le système. Et l'univers est résumé avec 1, 2, 3, 4, 5 listes. Une liste qui est la bande, avec 5 noms. Avec lesquels à partir desquels tu dois imaginer ton personnage.
D'accord, ouais.
Les noms, c'est Volute, Démon, Carapace, Cerf, hein, comme des cerfs de... Enfin, cela dit, tu peux l'interpréter différemment. Moi, j'interprète comme des cerfs d'aigle, mais tu pourrais aussi imaginer comme des cerfs qui protègent des plantes. Et Renarde. Ensuite, tu as les lieux. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'il y en a quelques-uns. Les spectres, donc les ennemis... les spectres, il y a les molosses, les vipères, les faucons, les araignées. Le butin, pierre, parchemin, métal, qui, il me semble, dans la version originale, renvoie un peu à pierre, caillou, ciseaux, en fait.
D'accord.
Ça sert un peu.
C'est pareil, les cerfs, tout à l'heure, tu disais en français, ça doit probablement être les deux, mais en américain, c'est quoi? C'est close ou c'est...
Alors attends, je vais te retrouver la version.
Parce que là, du coup, peut-être que l'ambiguïté sera levée.
En version originale, c'est coil, donc pour coil, demon, hull, grip et vixen, qui sont sans doute un peu plus polysémiques, j'ai l'impression. Parce que vixen, ça peut aussi dire mégère, en fait, il me semble. Bon, voilà. Enfin, il y a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'interprétations qui sont laissées au. Voilà.
C'est comme un aphorisme en philosophie ou en littérature.
C'est ça. Et après, ça t'amène à réfléchir dessus. Et.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit très peu pour laisser au lecteur une grande marge d'interprétation.
Alors nous, comme on l'avait joué avec, parce que c'est au départ, c'est Guillaume Nocker qui m'avait fait. J'avais joué avec. Avec lui, avec Fabien Chams, avec Daniel aussi.
Ces gens que tu appelles les Cachanais.
Oui, parce qu'on jouait à Cachan. Mais enfin, ils
Cachan,
mais il y en avait.
Mais non, parce que Alexis Lamiable, j'ai vu aussi qu'il habitait à Cachan.
Ah, c'est possible qu'ils les connaissent.
Si ça se trouve, il y a une naissance rôlistique des Cachanais.
Ah, c'est
que les Cachanais sont spéciaux du point de vue du rôle.
En tout cas, c'est clair que Guillaume. Daniel et Fabien, ils c'était des précurseurs. Ouais. Ils ont vraiment découvert plein de jeux. Ils continuent à le faire si rien ne les en a empêchés. Et découvrir plein de jeux cool. J'ai joué assez longtemps avec eux.
Cachan est une espèce de portail sur la force.
C'est ça.
Un truc
et des gens qui ont vraiment été des précurseurs. Parce que je me souviens quand on les a rencontrés, quand je les ai rencontrés vers 2010, quelque chose comme ça, eux, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils se promenaient là-dedans. Et
D'accord. Ouais.
Donc vraiment des gens très très intéressants. Et donc, voilà, quand on avait joué avec eux, en fait, il y a deux. C'est pas précisé dans les règles, mais grosso modo, il y a des questions auxquelles on va répondre. Okay. Qui sont posés dans le jeu et nous on le jouait de façon à ce que d'une certaine manière voilà, une règle qu'on reprend souvent c'est il y a quelqu'un qui dit quelque chose, les autres ne nient pas ce qui a été dit
ce qui a été dit précédemment.
Une règle d'impro mais qui a été très très souvent reprise. Donc les questions je vous l'ai dit, pourquoi voulez-vous le butin, quels sont les pouvoirs et les talents de votre bande, à quoi ressemble le monde spectral, à quoi ressemble le monde réel, que sont les échos, que sont les spectres. Les échos, c'est précisé dans les règles. C'est un plus ou moins. Tu peux faire des événements surnaturels. Tu peux observer des événements appartenant au passé, percevoir des événements se déroulant à un autre endroit ou lire le flux d'informations locales. Donc, tu vois, tu peux l'interpréter aussi bien comme de la magie que comme de la Matrix.
C'est marrant. Hier soir, on parlait des elfes. Et tu disais qu'à travers les vagues dans le Silmarion, il est dit que les elfes arrivent encore à entendre la voix d'Iluvatar.
Ouais, la musique d'Iluvatar.
La musique d'Iluvatar.
Tu peux aussi imaginer
la voix
ça
de
comme
Dieu.
Ça. Quoi. Ouais, bon, là, c'est un peu plus cyberpunk quand même. Les sous-entendus sont quand même un peu plus cyberpunk. Donc, ça, on va créer en fait le jeu. Il y a une situation de départ qui était vous étiez en train de piller dans le monde spectral et quelqu'un vous a vendu. Vous êtes tombé dans une embuscade et des spectres affamés sont à vos trousses. MJ, deux points, remplissez les blancs en piochant dans les listes de la section 1.
D'accord.
Et donc vous créez vos personnages à partir de la liste que j'ai donnée tout à l'heure. Volute, démon, carapace, cerf, renarde.
C'est trop cool.
C'est vraiment intéressant.
Ça veut dire que dans le monde spectral, on est une sorte de volute ou ce que tu veux et qu'on n'est pas forcément ça dans le monde...
Ça peut être ton interprétation à toi.
Oui, c'est vrai, mais oui.
Ouais, voilà. Alors, on va parler rapidement du système de résolution parce qu'on a parlé du système de répartition des responsabilités, de responsabilité, propriété, responsabilité. Donc, en fait, tu lances, la plupart du temps, tu lances 2 dés. Si tu es bien préparé, tu lances 3 dés. Et en fait, ensuite, tu les répartis sur deux questions. Est-ce que tu as atteint ton objectif et est-ce que le danger est évité ou pas ?
D'accord.
Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce système, c'est que tu es toujours en train d'arbitrer parce que pour obtenir ton objectif entièrement, il faut obtenir un 5 ou 6 ou éviter complètement le danger, il faut aussi obtenir un 5 ou 6.
D'accord.
Donc, grosso modo, tu es tout le temps en train d'arbitrer et ce qui est intéressant, c'est que ça crée tout le temps de nouveaux dangers qui en fait vont tirer l'histoire en avant, comme ce qu'on racontait dans Psyrun, hein, c'est-à-dire le fait que tu es tout le temps un peu hors d'haleine, tu vois, à courir, à dire « Ah mince, je suis blessé, donc on va trouver un médecin. Ouais, mais le médecin, entre-temps, il nous a vendu, donc on sort en le butant. » Et puis ensuite, on avait eu des histoires complètement fous comme ça où ouais, la roue à hamster court tout le temps. Quoi.
D'accord, ouais.
Quand il y a un danger, tu peux mettre un post-it. Le MJ peut mettre un post-it au milieu de la table et puis te le ressortir plus tard. Donc, t'es blessé. Ah ben tiens, au fait...
T'es blessé.
T'es blessé, donc c'est peut-être que ça va tu vas en prendre plus cher. Tu lances les dés. Alors, un autre truc qui est intéressant, c'est que tu lances les dés sous des conditions particulières. Quand vous agissez sous pression, et ensuite on te dit, par exemple, quand vous agissez sous pression, vous pouvez accomplir une tâche simple alors que vous êtes blessé ou en danger, traverser une zone dangereuse ou aider quelqu'un qui court un danger. Donc, c'est très précis sur les trucs. Et le danger qu'on te donne, c'est vous subissez des dégâts. Et ensuite, quand tu subis des dégâts, tu peux encaisser des... Le MJ peut dire, ah oui, mais là, tu es en train d'encaisser des coups. Et donc là, tu te reportes à la section. Quand vous encaissez des coups, vous pouvez résister à de graves blessures, dépasser la douleur ou intimider par votre résistance. Le danger, si tu rates ça, c'est vous êtes hors combat. Tu vois, donc il y a à chaque fois une des entrées. Donc je vais vous lire toutes les entrées. Quand vous agissez sous pression, quand vous infiltrez ou volez, quand vous encaissez les coups, quand vous devenez violent, quand vous embobinez ou tenez ferme, quand vous conjurez le champ spectral, donc ça c'est pour exécuter des actes surnaturels, et quand vous prêtez l'oreille aux échos. Donc voilà, quand vous agissez sous pression, je l'ai dit, quand vous infiltrez ou volez, c'est assez transparent, quand vous encaissez des coups, quand vous devenez violent, c'est relativement transparent, quand vous embobinez ou tenez ferme, c'est tout ce qui est de l'ordre, grosso modo, du social.
Oui. Hein.
Quand je conjure le champ spectral, c'est que tu utilises le champ spectral pour exécuter un acte surnaturel, entrer ou sortir du monde spectral ou communiquer avec les spectres.
Je trouve vraiment très impressionnant. Quand j'ai lu le jeu, je trouve ça incroyable de préciser en fait quand est-ce que tu allais faire tes jets de dés. C'est quelque chose qu'on reproche énormément aux jeux de rôle classiques. On ne sait jamais quand faire des jets. Enfin, et là, déjà, rien que le fait de voir ça écrit clairement. Vous lancez les dés quand ? Je trouve ça très très bien. C'est par exemple quelque chose, je trouve, dans le système Chaosium, par exemple, dont on parle beaucoup comme système assez traditionnel, manque énormément. On est en train de faire en ce moment même une campagne de Néphilim avec Flavie.
Ça manque énormément, oui.
Et à chaque fois, on se dit, mais quand est-ce qu'on lance les putains de dés ? Quand est-ce qu'on lance les putains de dés ? Parce qu'on a l'impression, souvent dans le jeu de rôle classique, que c'est, en fait, quand le maître de jeu trouve ça intéressant qu'on échoue. Voilà. Et si à un moment donné ça peut être intéressant qu'on échoue, eh ben on nous fait lancer les dés. Mais sinon voilà. Et là, la première chose qui te saute à la gueule quand tu dis Costeco, c'est ah ben voilà, on me dit quand lancer les dés. Et quand tu fais du jeu de rôle classique, je vais mieux dire que c'est quelque chose. T'es content de trouver ça.
C'est un truc
dans
qui m'avait
base,
impressionné aussi dans. Enfin bon, il y a plein de jeux dans lesquels c'est comme ça quoi. Mais
maintenant oui.
Slay Me, c'est comme ça.
Sûr.
Apocalypse World, c'est très très évident hein, parce que vraiment c'est extrêmement codifié. Donc ça c'est vraiment des trucs cool. Je regrette de ne pas connaître la date à laquelle il est sorti. Voilà.
On fera une recherche
une recherche
un peu avant la partie.
Ouais. Voilà. Mais je crois qu'on peut.
Eh bien, on peut y aller. C'est parti. On joue. Ok. Fin de la partie de Costeco. Voilà. Donc moi, ça fait à peu près, je sais pas depuis combien de temps.
20 minutes que t'as décroché.
Ah non, beaucoup plus que ça. Ouais. En fait, il y a au moins, on va dire, j'ai décroché au moment où on est revenu dans la réalité dans le 15e à Paris. Mais je n'ai rien laissé paraître. Parce que je ne voulais pas être le tueur de partie. Donc, j'ai continué à jouer. Mais je
t'arrivais
me suis
avec le...
royalement fait chier. C'est-à-dire, en fait, le début, nickel. Vraiment, l'intro, immédiat res, dans la cathédrale, vous êtes repérés.
Il y a un serpent géant qui vous attaque.
Il
ouais.
y a un serpent géant qui nous attaque.
Vous foncez dans le vide.
Une scène surépique. Où on se jette dans le vide. Je te rattrape, je lance des boules de feu et tout. Vraiment... super intro, je m'éclate et en fait il y a un moment donné où peut-être franchement au bout de 20 minutes le système me lasse, mais alors un truc de fou.
C'est vrai, il manque un second souffle.
Je sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait, une fois que tu as joué pendant 20 minutes à ce jeu,
et une fois que tu as fait la scène d'intro où tu as les mécaniques en main, du coup il manque une mécanique pour relancer le jeu en fait.
Bon, je sais pas, je vais vous laisser
peut-être pas faire aussi rapidement
l'avantage aussi d'avoir laissé de n'avoir rien dit, c'est que je sens que vous êtes éclaté. J'aurais vraiment
grave, moi j'ai joué à Fabien Echo, je me suis trop marré hein.
Alors moi aussi c'est ça qui m'a semblé, c'est que t'étais très bon, mais je trouve que le jeu n'était pas à la hauteur de ta prestation.
C'est peut-être le contraire,
Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, en tout cas, ce qui m'a fait beaucoup marrer, c'est de voir comment tu allais trouver des solutions d'adversité. C'est-à-dire, quelle adversité tu allais. Et à chaque fois, tu trouvais des idées assez originales. Des flics qui, dont la vélocité, dont l'agilité dépend du nombre de j'aime et sur Facebook.
Ouais, alors, en fait, ce qu'il faut... alors, on va juste parler un petit peu de la fiction, vite fait. Donc, le monde, grosso modo, le monde spectral, c'est un espèce de monde genre paradis, limbe, enfer.
Ouais.
Et le monde réel, c'était un monde. C'était Paris. Mais Paris façon Blade Runner, c'est ça,
et dirigé par des méga corpos.
Des méga corpos, donc.
Américaines.
Oui, américaines. Et puis, il y avait un côté, comment dire, je vais pas dire humoristique, mais très Yann Kounen, très caricatural. Mais oui. Si, mais moi, ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait.
D'accord.
Le côté, en fait, il y avait un côté South Park dans l'adversité. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on regarde des épisodes de South Park, il y a une caricature qui est faite du monde de la finance, du monde de l'économie, du monde de la grande entreprise, ou même dans Dogma, ou dans, enfin, a, comment dire, il y a un humour, en fait, il y avait un humour très particulier, une couleur et un canon esthétique très particulier dans cette partie qui n'est pas déplaisant au cinéma, ou dans les séries, ou tu vois, où tu as cette espèce de Mark Zuckerberg, cette espèce de Bill Gates dont la hache a une forme de Windows et quand il a des gaines, ça fait le bruit de Windows, le Mickey Mouse qui...
j'avais trouvé des flics aussi, parce qu'en fait la République française était dominée par Facebook, ouais. Je sais pas vraiment comment ça m'est venu. Hein. Et
c'est
toi,
génial.
À un moment, tu les as. En fait, tu as enlevé tous les likes qui étaient sur la page.
C'est ça, j'ai piraté Facebook.
Et en fait, Facebook a dit non, arrêtez la poursuite parce que ça n'intéresse personne.
Voilà, il n'y a pas assez de partage sur Facebook pour que la poursuite soit encore intéressante pour nous, en fait.
Donc, et donc, c'est comme ça que vous êtes débarrassé des flics qui vous poursuivaient dans la réalité.
J'arrive pas à trouver un film ou un canon esthétique. Peut-être, vous savez, Verhoeven. Si. Voilà, dans Verhoeven, il y a un espèce...
Robocop, un peu comme ça.
Voilà, exactement. Ouais. Pour moi, il y a plein de scènes que tu nous as décrites qui m'ont fait penser à Verhoeven.
J'ai jamais vu
Robocop. Par exemple, dans Robocop, la scène où justement tous ces administrateurs sont réunis et regardent la ville brûler en contrebas en disant « Oui, mais c'est pas grave, parce que nous, on fait de l'argent en vendant de la peur et des assurances. » Et la scène avec les archanges à la fin, où ils sont réunis en conseil. Tout ce trip du conseil d'administration diabolique, ça m'a vraiment fait penser. Enfin,
Angélique, puisque.
Angélique, oui, pardon.
Toi, tu jouais un démon.
Un démon, oui.
Et le, Fly, il jouait plus ou moins un personnage qui était à moitié possédé par un.
Naruto en fille. Naruto en fille, mais voilà.
Sans vouloir devenir Hokage.
Voilà.
Et donc, alors ensuite vous sortez. Alors vous aviez récupéré des parchemins et toi t'as établi assez rapidement que ces parchemins permettaient d'invoquer Satan.
Son maître au début.
Mon maître au départ.
Voilà. Ensuite c'est devenu Satan. C'est qui ton maître exactement ?
En même temps,
exactement,
je suis un démon.
C'est Lucifer.
C'était logique, c'est assez cohérent. Voilà, ça c'est un autre truc aussi qui
vous
m'a.
Vous allez guérir vos blessures chez Doc, qui est un de tes copains à toi.
Ouais. Doc Neville.
Et ensuite, vous allez chez le personnage à Flavie, donc chez Renard, pour récupérer du matériel. Il y a deux chérubins qui font la planque devant. Vous les butez, vous armez, mais il y a des flics qui vous poursuivent. Donc c'est là que les flics Facebook. Et vous vous rendez ensuite dans un endroit qui s'appelle le Cercle Noir, qui sont des copains à toi, Flavie, pour passer en enfer. Pour lire les parchemins. Là, tu commences à être possédé par le renard. Vous revenez ensuite dans la réalité. Vous allez dans un club qui s'appelle les Six Bras,
ouais.
Avec sept étages et au septième, enfin, à chaque fois des niveaux de plus en plus classe, entre guillemets. Au sixième ciel, il y a 12 anges. Donc notamment avec l'ange Mark Zuckerberg, l'ange Mickey.
L'ange Mickey. L'ange Ronald McDonald.
Ça m'est venu aussi parce que je commençais aussi à fatiguer, à inventer n'importe quoi.
Mais oui, mais c'est...
On joue un peu tard et je suis un peu fatigué, mais bon, on pourra discuter sur l'impact du système de jeu. Et après, ah oui, parce que vous aviez lu en enfer, vous aviez lu sur les parchemins qu'il fallait le sang d'un archange. Et puis après, vous arrivez, vous butez vous butez un archange, vous invoquez Satan qui est un gros hippie. Et qui
fume des pétards avec des âmes dedans.
Voilà, et qui instaure l'enfer sur terre, c'est-à-dire une démocratie participative.
C'est ça.
Avec des, je sais plus ce qu'il y avait. avec des fermes autogérées.
C'est ça.
Et les anges ne peuvent pas détruire le monde.
Voilà, les anges n'arrivent pas à détruire le monde.
On a essayé. Il y avait aussi une sorte de truc à un moment que j'ai trouvé génial. Tu décris une parade où il y a les méga corpos qui lancent des t-shirts dans la foule, qui lancent des hamburgers. Des nuggets. Ouais.
Bon.
Alors, moi, je trouve que pour un début de partie, le système de jeu, il fonctionne très très bien.
Moi, ça me fait l'effet Si Dracula, ce jeu. J'en parle très très souvent.
Ouais.
C'est-à-dire, pour moi, c'est un jeu, en fait, qui... Au début, tu commences et c'est vraiment bien, il y a un côté... Et puis, assez rapidement, tu t'aperçois, en fait, que c'est une machine qui... Un moteur Bernard, quoi. Il est lancé, et puis, bah, à un moment donné, ouais...
Bon.
Ça le fait pas, quoi.
Okay. Je trouve
que ça
le fait pas. Je vais essayer de résumer un peu à la fois la critique, mais c'est... Enfin... Bon. Effectivement, le jeu manque un petit peu d'un second souffle, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une fois la situation initiale, je pense que c'est au meneur de jeu de créer quelque chose d'intéressant.
Mais oui.
Tu vois, le problème, c'est que...
Mais justement, je trouve que tu as bien réussi.
Je manque un peu de...
C'est justement ce qui m'a intéressé. Ce que j'ai trouvé... D'ailleurs, j'allais dire, avant même que les micros se lancent, j'ai envie de dire, le jeu n'est pas bon. Mais toi, tu as été très bon, j'ai trouvé.
Je ne dirais pas que le jeu n'est pas bon. Il a ses limites et il a ses limites internes, mais il faut quand même le prendre pour...
Moi, il y a un souci que j'ai repéré et qui, je pense, a posé problème. Mais un vrai truc.
J'aurais voulu finir.
Ouais, fini. Et après,
Moi, je trouve quand même que le jeu est
on a le temps.
Est intéressant. Ce que j'ai joué là est relativement constant avec mes précédentes expériences. C'était bon, donc ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire un peu ce manque de second souffle. Et j'ai retrouvé un peu ce problème aussi qui est au bout d'un moment, tu t'avances parce que le jeu te demande d'avancer, pas parce que la fiction te demande d'avancer.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que tu as des problèmes, et puis vous êtes à nouveau attaqué par le serpent, puis toi, tu es possédé, et puis alors, il y a des contre-trucs à gérer, et puis moi, je vous balance de l'adversité dans la tronche. Mais au bout d'un moment, tu dis, bon. Qu'est-ce qui fait qu'en termes de fiction on avance? Au début, effectivement, il y a cette situation de départ qui marche très bien.
Ah ouais.
Et qui fait qu'on comprend très bien pourquoi on avance.
Tout à fait.
Et au bout d'un moment, c'est vrai que, ben, comme MJ, tu es obligé un peu d'improviser. D'une certaine manière.
Mais comme joueur aussi, je te rassure. Enfin, en tant que joueur, tu es constamment en train de te poser des questions.
J'ai l'impression que c'est presque un jeu où la difficulté viendrait de ce que. On a l'impression que c'est un jeu qui est facile à lancer, mais en même temps, peut-être qu'il demanderait beaucoup de préparation de la part
du meneur de jeu.
Ou alors de très grandes capacités d'improvisation. En tout cas, des capacités d'improvisation que je n'ai pas, si tu veux, ou pas en étant fatigué comme ça le soir.
Et non, mais c'est qu'à un moment donné, en fait, lancer des jets de dés et répartir entre la difficulté et la réussite de l'action, parce qu'il faut peut-être expliquer un petit peu comment ça marche, le système.
Ça, on l'a expliqué tout à l'heure, tu lances 2 dés, grosso modo.
Non, mais en fait, techniquement, comment ça marche ? C'est-à-dire, en fait, parce que c'est expliqué dans l'abstrait, on l'a expliqué, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que joueur, tu décris un truc, tu lances les dés. Voilà ce qui se passe. À un moment donné, j'ai noté que tu nous passais la parole chacun notre tour, et chacun notre tour, on décrivait quelque chose qui, de toute façon, faisait lancer les dés. Parce que l'intérêt du joueur, c'est d'agir sur les mécaniques du jeu. C'est pas ça ne servira à rien de faire de la description pour faire de la description. Tu vois, je veux dire, tiens, je passe la parole à Flavie. Flavie, qu'est-ce que tu fais ? Et là, elle décline sa robe, son machin. Bah non, l'intérêt, c'est de vaincre la victoire.
Le seul truc qui nous permette vraiment de faire des descriptions, c'est l'idée de, si vous êtes préparé, vous lancez un dé supplémentaire. Ça, c'est vraiment une incitation du système à plus.
Ouais, peut-être à faire des descriptions.
Flavie, tu voulais dire un truc ?
Oui, moi, le problème que j'ai repéré, c'est en fait de devoir répondre aux questions qui pourraient créer du personnage, qui pourraient faire que notre personnage a de la saveur pour nous et du coup un intérêt fictionnel pendant la partie. Ce qui fait que la scène d'intro, elle est à fond parce qu'on n'a pas à répondre à ces questions-là. Et donc, on est sur un rythme assez échevelé, très, très puissant.
Je suis totalement
d'accord. Et on retourne dans la réalité et bouf. Bon, là, en fait, on passe à un autre truc. Il faut qu'on fasse quoi ? Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a des questions. Et on part d'un rythme échevelé. Et là, pam, on a un coup d'arrêt qui nous fait nous rendre compte, en fait, qu'on a un creux dans la fiction qu'il va falloir qu'on
comble
très vite.
Je suis d'accord.
Et en fait, comme on est sur un rythme échevelé, on a envie de le combler très, très vite.
Exactement.
Et du coup, là, il y a un creux dans la partie parce qu'on se retrouve à un moment où, en fait, il n'y a rien
dans les règles devant nous qui peut nous aider en fait à combler ce creux. Et donc il y a quelqu'un qui lance quelque chose dans l'impro, on peut pas dire oui ou non, mais du coup on essaie de broder autour et on a comme ça environ 20 minutes où on se rattrape un peu aux branches, où du coup le maître de jeu essaye de s'arranger pour qu'on puisse revoir une partie de la poursuite. Et en fait, je pense que c'est là que tu as lâché. Alors moi, du coup, j'ai réussi à me remettre dedans parce que du coup, j'ai réussi à me raccrocher au creux de la fiction et à bâtir un truc autour. Mais toi, en fait, ça t'a sorti de l'immersion.
Complètement. Très bien, Fly. Totalement d'accord.
Pour défendre quand même un petit peu le jeu, dans le jeu, il y a la liste autre qui te donne des noms qui te permettent d'inventer des trucs à la volée. Tu vois, le coup de l'ours, parce qu'à un moment, il y a un ours chrétien qui vous...
C'est pour le meneur, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est pas pour les joueurs, sauf que les joueurs doivent répondre aux questions, en fait. Les questions sont... Pourquoi est-ce qu'on a besoin du butin ? Quel est le pouvoir de la bande ? Quel est le monde spectral ? À quoi ressemble le monde réel ? Quels sont les échos ? Quels sont les spectres ?
C'est un jeu, à mon avis, dans lequel le meneur et les joueurs ne vivent pas du tout la même partie. Et d'ailleurs, je vais même te dire un truc. Je pense où tous les joueurs ne vivent pas du tout la même partie. J'ai dit à un moment donné, au cours de la partie, et je le redis ici dans le podcast, je n'ai jamais vu un contenu fictionnel aussi malléable dans un jeu de rôle. C'est la première fois que je trouve que la fiction est élastique au point que c'est pas certain, mais alors pas du tout, que si on fait autour de cette table-là, on se met dans un confessionnal, on dit chacun ce qui s'est passé dans la fiction, on va avoir trois histoires radicalement différentes. Moi, comprenais pas toujours
pas
ce qui se passait.
Pas tout à fait quand même,
mais
je comprends ce que tu veux dire.
Moi, je comprenais pas toujours ce qui se passait. Honnêtement, il y a des fois où j'improvisais des trucs en me disant « Bon, je crois à peu près que tout le monde est d'accord là-dessus, je vais décrire ça, des flèches, des templiers. » Je m'axais autour de mots-clés, mais par exemple, moi, j'ai imaginé qu'on était encore dans une forêt à ce moment-là.
On était encore dans une forêt.
À un moment donné, quand on saute dans le vide, par exemple, on a mis vachement longtemps avant de t'expliquer ce qu'on voulait vraiment faire, Fabien, t'as pas tout de suite compris. Je pense que le jeu nous met dans des situations mécaniques qui nous poussent à imaginer des choses très différentes.
Oui, mais en même temps, moi, un autre aspect que j'aime bien dans ce jeu, ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment, c'est cette création d'univers à la volée que je trouve assez cool. Et je trouve qu'on a quand même créé. À la fin, j'ai commencé un peu à déconner, j'avoue.
Non, moi, j'ai trouvé ça cool.
J'ai trouvé ça cool, en fait.
Mickey et puis.
J'ai
trouvé ça Zuckerberg cool. Hein.
Et nous, on est bons preneurs pour ce genre de trucs. J'étais dedans, en fait.
Repenser à South Park. C'est une critique.
Oui, mais on est loin du canon esthétique de Ghost Echo. Laisse-moi quand même aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu arrives à développer un univers qui est pas... ça stimule ta créativité en termes esthétiques. Tu crées un univers qui est pas dégueulasse. Et en particulier, c'est très agréable. Je trouve que ça marche très bien dans cette scène du début. Oui. C'est-à-dire que si on avait un peu plus de scènes, d'autres situations, tu vois, qui étaient proposées par le jeu ou qui permettaient de rebondir un peu. Peut-être que on pourrait continuer à créer un univers simplement en jouant et que ça donnerait quelque chose d'assez cool, je pense.
Flavie ?
En fait, il manque une seule scène pour moi, mais une scène cruciale, c'est-à-dire que après la scène d'intro, qui est assez échevelée, qui nous met dedans, il manque une seule scène, une scène type flashback ou quelque chose comme ça, où on pourrait jouer ce qui nous a amené à être dans cette scène-là et nous donner nos futurs objectifs.
Ah oui.
Et c'est pour moi la seule chose qui manque, parce qu'ensuite, du coup, on aurait le plan, le truc, tu vois, genre, on se met à dire, bon, mais qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? Et puis là, du coup, tu peux imaginer, on doit faire ça, on doit aller vers là. Et là, en fait, tout serait mis en place.
Oui, pour poser des motivations des personnages, qui soient des motivations un peu plus solides que simplement j'ai un truc et j'essaie d'en faire quelque chose.
Parce que du coup, pour des gens comme Rom, qui sont des joueurs qui ne vont pas se relancer forcément dans la fiction, qui ont besoin d'avoir des règles quand même assez claires, parce que sinon, il y a des jeux où tu peux carrément tomber dans le n'importe quoi. Là, tu t'es contré.
Carrément.
Mais du coup, t'es pas rentré
J'ai fait l'effort parce que je voulais pas pourrir la partie en fait au bout de 20 minutes.
Mais je pense pour des joueurs comme ça.
Deux bonnes heures.
D'accord.
Nous dit Alice.
Et je pense que c'est ce qui manque en fait. Il manque un. Il manque vraiment quelque chose pour combler ce creux fictionnel qui fait que du coup on se raccroche aux branches en se disant on a quand même démarré un jeu de rôle, donc là il faut quand même qu'on trouve pourquoi on est là. Et en fait, on aurait cette création in medias res qui te tient à cœur de la fiction.
Oui.
Et tout en pouvant la faire.
Je trouve que tu as vraiment raison. Ça, c'est... Effectivement, ce serait un bel élément de game design.
Bien alors, analysé, hein, Fly, le jeu. Putain, je suis impressionné. Tu expliques plein de sentiments que j'avais. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Et...
Je suis partiellement d'accord avec Fly.
Ouais. Ouais.
Alors, en fait, il faut quand même parler des choses positives dans le jeu. C'est
mais,
vrai que...
Enfin, bon, il y a une autre question que je me pose vraiment, mais c'est un peu la même question qu'on a avec Zombie Cinéma. Quand c'est des jeux très courts comme ça, c'est toujours un peu difficile de comprendre quel est l'esprit des règles. C'est-à-dire comment les règles sont censées être utilisées, tu vois.
Ouais.
Là, on a vraiment pris le jeu brut de décoffrage, un peu avec l'expérience que j'en avais eue.
Ouais.
Tu vois, c'est toujours une question que... Parce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a joué à Fabien Echo ou à Ghost Fabien ou à...
Non, moi, j'ai lu le jeu. Alors, juste un point, j'ai lu le jeu, on en a respecté parfaitement les règles.
D'accord.
Alors,
je ne sais
contre,
pas quelle
que
est la part.
En tant que meneur, je sais pas quelle est la part. Des listes qui te permettent du coup de voir dans quel univers ou vers où tu dois nous emmener. Donc, moi, perso, je ne l'ai pas lu.
C'est pas extrêmement clair. Hein. Tu vois,
moi, je pense que c'est pareil pour le meneur, mais je pense par contre les listes donnent des vraies choses sur lesquelles s'appuyer pour le meneur. Je t'ai vu chercher dans les listes.
Oui, ben, j'ai utilisé la parade nocturne, le cercle noir, le mont cathédrale, les six bras. Mmh. J'ai utilisé ours. J'aurais pu utiliser venin, ça aurait été cool.
T'as utilisé les serpents à plusieurs reprises. Tu l'as utilisé.
Ben,
tu l'as pas utilisé.
Spectre,
mais...
j'ai pris vipère en fait. C'est effectivement le méchant, c'est devenu vraiment. Et le butin, c'était des parchemins. Comme dans le...
D'accord.
Je me demande quand même, si tu veux, quelle est la part de... Enfin... Ouais. Est-ce que je vous ai bien transmis le jeu, de certaine façon? Est-ce que... Ça, c'est une question que je me... Une vraie question
mais
que je me
pose. C'est une question qu'on
parce
peut
que, par
poser
exemple,
à tous les,
pour
tous
zombie
les podcasts
cinéma,
one-shot. Hein.
Si, au zombie cinéma, oui, mais il y a certains... Si tu veux, oui, mais dans certains jeux, tu peux évaluer par rapport à des parties, d'autres parties...
Précédentes,
précédentes ou qui sont présentées par l'auteur dans le texte, tu vois. Ghost Echo, évidemment, il y a ce pari hein, d'arriver à transmettre le jeu en, comme je disais, en format zippé. Et je sais pas trop comment. Enfin, je sais pas si je voulais bien présenter ou pas à cause de ça, quoi, parce que j'ai pas vraiment d'autres.
Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas de ta faute.
Alors,
si le jeu est zippé, bah, il doit prendre le risque d'avoir ce genre de partie, Flavie.
Pour moi, il y a un gros intérêt dans le jeu. C'est la fluidité du système.
Non. Moi, je suis pas d'accord.
Qui est un système quand même rapide de mise en place. Mais je pense qu'il manque quelques petits ajouts sur ce système pour préciser des types de scènes. Mais je pense que je vois bien où veut nous emmener le jeu, sur un rythme échevelé, sur un truc qui n'a pas l'air d'être prise de tête, un petit peu où on doit faire sans arrêt du pop et de l'épique un peu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Alors, sur le système de résolution précisément, tu vois, par rapport à Psyrun, effectivement, je trouve quand même que ça va beaucoup plus vite que dans Psyrun, où dans Psyrun, il y a vraiment des moments d'arrêt, quoi, où tu es là, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec mes... Donc, attends.
Vas-y, je t'en prie, Fabien.
En revanche, un vrai problème, et ça, j'ai pas su l'interpréter, et toi, tu t'en es rendu compte aussi, Rome, dans la partie.
Je voulais en parler.
C'est l'interprétation des dés. Tu vois.
J'y comprends rien.
À quel moment s'arrête l'objectif, à quel moment s'arrête le danger.
Tout à fait.
Tu vois, par exemple, je relis ce morceau de règle. Quand vous encaissez les coups, donc ça, c'est en gras, ensuite. Vous résistez à on vous donne des exemples de qu'est-ce que c'est quand vous encaissez les coups. Vous pouvez résister à de graves blessures, dépasser la douleur ou intimider par votre assistance. Danger, vous êtes hors combat. Tu vois, quand on lance les dés pour résister à des blessures, parce qu'au bout d'un moment, tu essayes que tes blessures, les blessures que tu infliges au joueur et des vrais au personnage, pardon, et des vraies conséquences fictionnelles. C'était pas évident pour moi d'interpréter ce que ça signifiait au départ. Alors finalement, j'ai fini par me dire, ok, si tu réussis ton jet de dés, alors la blessure ne s'aggrave pas. Mais le danger, c'est d'être hors combat. Donc par exemple, si tu rates les deux, ben t'es à la fois ta blessure s'aggrave, mais je sais pas trop ce que ça veut dire si la blessure s'aggrave, et t'es hors combat, t'es dans les pommes. Si ta blessure, et tu peux aussi avoir ben, toutes les autres possibilités, quoi. À la fois ta blessure s'aggrave pas et t'es pas hors combat, et puis enfin tu tombes dans les pommes, mais ta blessure s'aggrave. pas. Ouais. Enfin, voilà, et inversement, quoi. La blessure s'aggrave, mais tu résistes.
Alors, la différence avec Psyrun, c'est que Psyrun te propose des vrais choix. Des vrais choix, beaucoup plus clairs en fait.
Oui, alors Psyrun, tu... comme
alors,
effectivement...
Okay, on prend beaucoup de temps pour réfléchir, il y a un gros temps d'arrêt.
Tu lances plus de dés.
Mais tu lances plus de dés, mais je trouve que la manière dont tu répartis tes dés en dit beaucoup plus sur ce que le joueur veut et
bon,
attend de la
avait
fiction.
On avait aussi un petit peu ce problème dans Psyrun. Hein,
oui,
des
mais
moments,
moi je trouve que dans Psyrun, il y a des vrais choix. J'ai nettement préféré le système de Psyrun à ce niveau-là, beaucoup plus complet, il te laisse vraiment pour moi des vraies possibilités. Mm. Là où j'ai trouvé que souvent, on se sent un peu au feeling, on veut... en fait, honnêtement,
j'ai...
les conséquences,
en final,
on s'en...
On a rajouté au final
faux,
ouais. Une règle presque tacite qui s'est installée.
Ah, tiens
au final, je trouve ouais, quand on lançait les dés et qu'à la fin je choisissais, je j'argumentais avec le MJ pour savoir ce qui allait se passer.
Tu négociais,
j'ai négocié avec ouais. toi. Et
de
en fait, c'est
joueur.
Une règle tacite qui s'est installée parce qu'on a l'habitude de jouer avec ce genre de jeu et que en fait, j'ai l'habitude de négocier avec toi pas mal en tant que MJ. Et donc une règle tacite que je me suis mise à faire parce qu'à chaque fois, ben, du coup, je voulais pas que tu sois tout seul à parler. J'avais aussi envie de
ouais,
participer
à
l'action. Et du coup, en fait, je me suis mise à négocier. Ça m'a mise, en fait, face aux dés, à faire des
bon,
choix.
Pour défendre les dés enfin, oui, mais les dés mettaient au moins une base de négociation, tu vois. Genre
oui,
quand
tout à fait. C'est vrai.
Mais c'est ça
quand
que...
Quand à chaque
voilà,
fois vous avez fait des doubles 5, c'est là... Oh,
alors, attends,
c'est bon.
Ouais, je suis d'accord. Le truc, en fait, c'est que je pense que dans Psyrun, Ghost Echo, il faudra en fait que le MJ, avant même que les dés soient lancés, il décrive clairement toutes les possibilités
ouais.
en fonction. C'est-à-dire, si tu réussis partiellement, il va se passer ça. Si tu réussis, machin, etc.
Si
de façon à ce que
oui,
les joueurs
quand tu le faisais,
aient des vrais
on
choix.
On ne mettait pas en place la négociation et quand tu ne le faisais pas, c'était là que la négociation arrivait.
Du coup,
mais perso, j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, mais du coup, si tu vires l'aspect négociation et que tu passes en mode, à mon avis, tel que le jeu devrait être joué, c'est-à-dire où c'est vraiment, il n'y a que le MJ qui s'amuse parce qu'il est seul à brainstormer sur les conclusions possibles. Et finalement, le joueur, lui, il est réduit à choisir où
alors,
il met le
dé. Ça, c'est pas dit ça, comme ça dans le jeu. C'est peut-être moi qui l'ai...
Okay.
Parce que tu vois, dans le jeu ne te dit pas... contrairement à Psyrun, dans Psyrun, on te dit qui répond aux questions. Le jeu, ici, ne te dit pas si c'est le meneur de jeu ou le joueur qui raconte l'objectif ou
d'accord.
le danger.
La situation négociatoire, j'ai envie de dire, enfin, ou dans laquelle on négocie, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'on a au moins deux joueurs, c'est-à-dire le meneur et en face le joueur, qui sont en train de décider d'un avenir possible, de propositions possibles. Donc on a un maelstrom, c'est-à-dire on a deux personnes qui réfléchissent conjointement, alors que dans un autre cas, on pourrait avoir un temps d'arrêt où c'est le meneur de jeu qui se retrouve dans une position où il est là en train de réfléchir longuement à des situations. Et inversement, on pourrait imaginer aussi le cas inverse où on laisse le joueur lancer ses dés et définir lui-même c'est quoi ton danger. Et d'ailleurs, ça a été fait au cours de la partie. Il y a des fois où tu as demandé à Fly ah, c'est quoi ton danger, ou Fly proposait un danger, par exemple le démon va prendre possession de mon corps et je vais me retrouver possédé, où tu as fait ah ouais, c'est trop cool, je valide, etc. Mais dans tous les cas, il y a un aspect non préparé dans ce jeu, il y a un aspect sans filet qui nuit grandement à l'intérêt qu'on y trouve. C'est-à-dire, pour moi, c'est un jeu qui manque cruellement
ouais,
de contenu.
Tu vois, peut-être
c'est un jeu en deux pages, et ça restera que ça pour moi.
Mais peut-être que c'est un jeu qui est beaucoup plus fait pour des gens qui font vraiment, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de jeux qui sont pensés vraiment pour des gens qui font beaucoup de théâtre d'improvisation. Et donc, qui sont plus habitués peut-être à inventer des trucs complètement à la volée, en prenant les enjeux. Tu vois, peut-être qu'on n'est pas le bon public pour ce
alors
jeu.
Moi, je suis. Alors, je sais bien que bon, voilà, mais moi, je suis contente de la fiction qui a été créée.
Moi aussi, assez.
Et moi, je me suis bien marrée.
Alors, oui.
J'ai des moments peut-être un petit peu de creux, mais bon, moi, je me suis bien marrée et je suis contente quand je repense à la fiction, je la trouve cool.
Bon.
Tu l'auras oublié dans
ouais, on n'y reviendra plus.
L'autre jour, Psyrun, je me suis fait la réflexion en montant le podcast, je me souvenais même plus du jeu. Alors que dans le podcast, je m'entends dire ouais, c'est bien, j'y rejouerai, je sais plus ce que je raconte. J'étais là, mais non, en fait. Ce jeu, il est passé sur moi, mais
attends,
comme.
On parle de Ghost Echo, là.
Je sais bien, mais Ghost Echo, ce que je veux dire, c'est que ça va me faire pareil. Moi, je suis sûr, c'est des jeux qui n'ont rien de bouleversant. Ça me fait penser à Lady Blackbird. Lady Blader, c'est pareil, c'est bien huilé, ça tourne
d'accord,
bien.
D'accord, mais ça c'est dans le projet de départ du jeu, tu vois.
Le lendemain.
Tu peux lui reprocher. Tu peux lui reprocher, mais c'est dans le projet de départ du jeu de pas, enfin, oui.
Pas
c'est
bouleversant, pas... Hein, comme jeu.
Je suis d'accord. Voilà. Mais je l'ai pas présenté comme un jeu bouleversant.
Tout à fait.
Mais
l'intérêt est mécanique. On voit bien que c'est un jeu qui
Moi, j'aime bien l'esthétique qui a été créée quand même. Je suis pas fan du jeu, mais
il fait bien de la guitare quand même.
N'importe quoi. Il faut prendre le jeu pour ce qu'il est, si tu veux.
Ouais, je pense.
Tu vois, il faut prendre le jeu pour ce qu'il est.
Quelle est sa date de parution?
Alors, je ne sais pas exactement. Je sais qu'on y jouait déjà en 2010.
Parce que
sur le site, j'ai pas réussi à trouver la date.
Si c'est le jeu qui a inventé l'idée que les dés donnent
des
codes.
On y a déjà répondu. C'était dans Other Kind de Baker.
On y a répondu, mais pas dans les podcasts.
Oui, d'accord. On y a répondu. Excusez-moi, il y a des auditeurs qui nous ont
des commentaires,
notamment Callisto, qui nous ont
de Vincent Baker.
De Vincent Baker.
C'est
crois.
Toujours lui. Pardon.
C'est-à-dire que la manière dont les joueurs répartissent les dés va leur donner l'autorité, le pouvoir final sur qui va entériner telle proposition. Et ça, l'idée que le système de résolution et le système de répartition de l'autorité autour de la table soient mêlés de cette manière-là, c'est très ingénieux. Et ça, tous les jeux qui ont hérité de ce mécanisme, oh là là, c'est super, etc. Donc, Ghost Echo, évidemment, s'il en a été l'un des fondateurs, c'est évidemment un jeu intéressant qu'il faut visiter au moins une fois. Mais encore une fois que tu as joué 20 minutes, tu as fait le tour du jeu. Et à cause du souffle dont parlait Flavie tout à l'heure, c'est-à-dire le côté, il y a un moment donné où quand tu as passé la première scène d'introduction, le jeu retombe, le soufflet retombe.
Oui, mais à nouveau, Rome, je pense quand même qu'il faut... Je suis pas red dingue du jeu, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Si tu veux, effectivement, c'est un jeu difficile en deux pages, qui demande beaucoup de.
C'est un jeu pour jouer deux heures, quoi.
Voilà.
C'est un jeu en deux pages.
Mais tu vois, Zombie Cinéma aussi est en deux pages. Et pourtant, on peut faire du Zombie Cinéma vraiment à l'infini. Et on peut en tirer.
Ouais, et puis moi, Zombie Cinéma,
il y a des parties qui m'ont fait déjà pleurer dans Zombie Cinéma.
Moi, pas du tout.
J'exagère un peu, mais où j'étais vraiment très ému. Tu vois, bon. Donc, simplement, Ghost Echo n'a pas les mêmes. J'ai l'impression n'a pas les mêmes ambitions. Voilà.
En tout cas, clairement, les situations problématiques présentées dans Ghost Echo sont intéressantes. Enfin, l'introduction, en tout cas, est intéressante.
L'introduction est intéressante, mais je te dis, il manque, effectivement, la proposition de Flavie était extrêmement juste. Il manque sans doute une motivation générale, globale, tu vois, à avancer. Et quand tu dois te trouver à toi-même, quand le joueur doit se trouver sa motivation un peu, sans y avoir réfléchi, comme ça, un peu à la volée, et puis que, bon, peut-être qu'il faut être plus dans l'improvisation que nous on le, enfin être plus agile dans l'improvisation que nous ne le sommes.
Ah, je nous ai trouvé quand même plutôt pas mal. Hein.
Ouais, mais pour inventer des trucs débiles, enfin rigolos, je veux dire, tu vois.
Anges qui veulent détruire le monde, il faut ramener Lucifer pour arranger la situation. Je trouvais ça cool.
Ouais, d'accord, mais bon, ça mériterait d'être plus travaillé, tu vois.
Ouais, mais c'est pas possible avec ce système de jeu.
Justement, je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Alors qu'un petit, une petite scène où le MJ ou les joueurs, hein, je sais pas, décident de créer à un moment les objectifs pour pouvoir, ça relancerait tout. Quoi. Et je pense que là, on aurait un jeu tout.
Et autre. À nouveau, peut-être que c'est moi qui m'ai mal interprété, tu vois, parce que quand ils disent répondez à cette question pendant la partie, alors ils disent quand même pendant la partie, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des moments où il faut, tu vois, genre s'arrêter,
prendre du recul,
et puis laisser.
Je me suis posé la question, moi.
Laisser brainstormer, tu vois. Ouais. Les mecs qui sont après la scène d'action, les mecs qui sont sur le canapé et qui se regardent et qui font bon, mais là il nous faudrait quand même un système pour pouvoir.
Au moins, il faudrait le dire.
Structurer ça, tu vois. De
dans Prosopopée, à un moment donné, Frédéric il dit voilà, le silence fait partie du jeu. Mmh. Là, ça aurait pas été grand-chose sur les deux pages de dire bah prenez le temps de réfléchir à vos situations pour améliorer les situations. Là, c'est pas le cas. Et en plus, comme il lance directement dans des scènes qui. Enfin, moi, ce qui ressort de ce jeu, c'est l'hystérie. C'est un jeu d'hystérie. Tout est hystérisé, tout est irisé, tout est très, très dynamique. Ça va vite, on lance les dés, il y a des conséquences, etc.
À nouveau, c'est peut-être mon interprétation des choses, ça, je ne sais pas.
Je me pose la question parce que je relis les questions.
Ouais.
Et au final, je me demande si elles ne structurent pas, en fait, un scénario. Pourquoi le butin,
oui,
s'arrêter après qu'on ait récupéré le butin et se demander qu'est-ce qu'on a récupéré.
Ah oui, d'accord.
Ensuite, on l'a fait.
Ouais,
bon,
mais tu vois, faire ça pour chaque question, c'est-à-dire qu'à un moment on s'arrête, en fait, quel est notre pouvoir? Pourquoi sommes-nous ensemble? le pouvoir de la bande. Une autre scène, ensuite on s'arrêterait. À quoi ressemble le monde spectral au final? Est-ce qu'il a un objectif, quelque chose à nous apporter? On relance quelque chose, ensuite à quoi ressemble notre monde réel? Puis à quoi, qu'est-ce que sont les échos? Parce qu'au final, on n'a pas du tout traité ça.
On l'a vraiment fait, Flavie, mais par contre, c'est vrai qu'on ne s'est pas réservé des scènes dédiées. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a fait tout au long du jeu.
Les spectres, au final, c'est les méchants de la fin. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que la façon dont sont rédigées les questions, elle rédige aussi un scénario.
Mmh, d'accord, ok. Ouais, donc, pourquoi le butin? On l'a fait. Oh, je suis désolé, moi, on va répondre à chaque question.
Oui, on a répondu à toutes les questions, sauf les questions sur les échos. On n'a pas dit ce qu'était les...
Moi, j'ai essayé. J'ai pas arrêté de lancer des perches, de lancer. Et ça aussi, c'est un truc que
moi,
je voulais dire.
Moi, j'avais une réponse à l'intérieur, dans ma tête, qui était les échos et les âmes.
Et justement, les âmes on d'années. Y arrive à ce problème dans ce jeu. C'est-à-dire que chacun, en fait, répond a priori, je dis bien. A priori, pas pendant la partie, mais répond a priori avant même de faire cette description et ces propositions aux questions posées. La preuve, c'est qu'à un moment donné, je décris ce que contient le butin. Donc je dis ce sont des parchemins qui contiennent des mots d'invocation pour mon maître. Et Fly rajoute tout de suite oui, mais c'est pour sauver le monde. Genre, j'y avais réfléchi aussi. Allez, je raccroche les wagons, j'accepte ta proposition un peu bancale qui me plaît pas trop parce que j'y avais réfléchi et que ça rentre en contradiction. Toi, tu dis oui, mais moi, de mon côté, j'avais réfléchi. Ok, si on a tous réfléchi à un truc a priori et que entre nous, ça colle pas, du coup, ça n'engendre que de la frustration. Chaque fois qu'un joueur est heureux d'avancer son truc qu'il a pensé a priori et qu'il voit se réaliser dans la fonction, il frustre deux joueurs. Autrement dit, on obtient une situation dans laquelle, à chaque fois que quelqu'un fait une proposition, il est content contre deux autres personnes. Et si on est trois, ce sera un mec content pour trois mecs mécontents. Donc au final, ce jeu entretient le mécontentement d'une majorité à chaque fois, comme la démocratie, c'est pareil.
Alors, donc, j'irai pas jusque-là, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a...
C'est un jeu de frustration. C'est un jeu...
C'est vrai qu'on pourrait... Enfin, bon...
Moi, j'ai...
C'est vrai que quand tu crées du contenu comme ça, c'est intéressant que tu parles de prosopopée. Qui pour le coup semble pourtant être vraiment l'opposé de ça, mais c'est aussi prosopopée, c'est un jeu dans lequel tu crées du contenu, tu vois, du contexte fictionnel,
ouais.
Mais tu prends ton temps.
Mais tu
réfléchis énormément.
Bien, tu ne réponds à t'interroger sur aucune question, oui. A priori. Et ça, c'est très important. Tous les jeux dans lesquels des questions sont posées aux joueurs pendant la partie ou avant la partie, sur l'univers, sur quoi que ce soit. On en avait parlé dans Sur les frontières, le jeu de Manuel Bedouet. On en reparle encore ce soir, on en avait également parlé dans Psy Run. À chaque fois, je vous dis, ce sont des moteurs à frustration. Parce que en posant des questions, on invite les joueurs à imaginer quelque chose qui est possible et au final, au cours de la fiction, soit il aura raison, auquel cas il sera lol, je suis content, soit il aura tort et auquel cas il sera super frustré.
Ou alors, il faut que tu sois seul à être responsable de cette... Toi, voilà. Si je te dis... Toi, tu dois répondre à telle question.
C'est ça. Et là, dans ce cas-là, c'est bon.
Ouais. Ça peut marcher.
Dans ce cas-là, c'est bon. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans Polaris, ouais. Où on se pose des questions dans le cadre qui des sont... responsabilités qui nous sont octroyées en fonction de quel tour de joueur c'est. Alors, ça, c'est très important, hein, vraiment. Et pourquoi dans prosopopée, ça fonctionne, à mon avis? Parce que dans prosopopée, il n'y a pas des questions universelles posées aux joueurs. Par contre, il y a des problèmes posés aux joueurs.
Il y a
un problème fictionnel. Chacun a une vision de la manière dont on pourrait le résoudre. Mais comme chacun est dans une position de réflexion, quand quelqu'un a une bonne idée, on le laisse parler. Et souvent, en plus, le jeu nous incite à aller vers la meilleure idée possible. Puisqu'en plus, il nous propose de récompenser les gens. Exactement. Il nous propose de récompenser les gens pour cela. Donc, on est sûr qu'on avance dans le bon sens et que la situation convient à tout le monde. On va, au contraire, vers la convergence des solutions, si j'ose dire. Alors que là, c'est différent. On invite les gens à chacun se concevoir une solution dans son coin. Et donc, à prendre le risque constamment au cours de la fiction d'être contrecarré. Alors, quand les dés vont dans ton sens, quand les autres joueurs vont dans ton sens, mais t'es super content, quand ça va toujours dans le même sens. J'ai un exemple. Dans la partie de Psyrun précédente, on a été avec Colin, et Colin a proposé, enfin, c'est Flavie qui a proposé à un moment donné que la bague au pied de Colin, ce soit une bague mortuaire. Et là, comme personne n'avait eu d'idée, mais l'idée était énorme. Et du coup, on était tous emballés par cette idée. On était tous. Et là, nickel, ça ne provoque aucune frustration parce que personne n'avait eu d'idée meilleure. Mais les propositions qu'on fait chacun dans notre coin, quand les autres les jugent pas trop bonnes, non seulement on est frustré parce qu'il les refuse et donc on se dit bah quoi, vous me critiquez quoi, elles sont pas bonnes mes idées, il est pas bonne mon idée, mon parchemin, mais en plus on ça nous contraint parfois par politesse à entériner des idées qui finalement ne nous conviennent pas. Et donc pour moi ce sont des jeux, ce sont des machines à perdre, ce sont des machines à frustration. Ça engendre en fait au fur et à mesure, c'est une machine à désintéresser.
Bon, t'es un peu dur. Je comprends ta critique.
J'essaye de formuler ma critique du mieux que je peux.
Oui, oui, j'entends bien. Je comprends ta critique. À nouveau, c'est peut-être bon. Si tu veux, j'essaye de comprendre le projet qui est derrière ce jeu et d'en tirer le meilleur parti. Tu vois, en se disant bon, si je devais y rejouer, comment j'améliorerais les choses. Et bon, c'est peut-être que là aussi c'est parce qu'on n'est pas assez habitué à un certain type d'improvisation dans lequel tu dois accepter ce que les autres t'apportent et puis bon ben. Voilà, enfin, à nouveau, je suis pas fanatique de ce jeu, mais je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant dedans, dans cette création d'univers à la volée. Moi, j'aime bien un peu cette
mais on trouve frénésie. Pas ça dans tous les jeux un peu imparfaits qui incitent les joueurs à faire des trucs à la volée. Enfin, on trouve ça dans tous les jeux un peu modernes dans lesquels on n'a pas envie de se faire chier avec des préparations de parties très longues et donc du coup, on laisse les joueurs improviser leurs propres trucs.
C'est quoi ce moderne ?
Bah, je sais pas, des jeux à la mode. Je veux dire, c'est des jeux très à la mode.
Ça va.
Tu dois. Bah oui, bah.
Non, parce que t'as des jeux qui s'en sortent. Enfin, je pense qu'il y a un jeu qui me fait aussi cet effet de création d'univers à la volée et qui marche bien pour moi. C'est Slay With Me de Ron Edwards.
Ah bon, ouais, c'est marrant parce que c'est des genres de jeux. Je suis complètement hermétique.
T'avais pas aimé Slay With Me, je sais plus.
Enfin, c'est pas un jeu qui m'a laissé un souvenir impérissable.
Ah, moi, j'adore vraiment ce jeu. Je le trouve très, très.
Non, assez rapidement, je m'ennuie. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à creuser.
C'est les tours de dés que j'aime bien, moi, dans Slay With
Me. Moi, j'ai surtout.
Je te défonce ta tour de dés.
Ouais.
C'est des jeux dans lesquels j'ai la sensation qu'il n'y a rien qui résiste d'intéressant. C'est des jeux dans lesquels j'ai la sensation que le sol se dérobe sous mes pieds en permanence. S'il fallait poétiser mon propos, ce serait ça. Quand je joue, j'ai l'impression que c'est des jeux. Le sol.
Est-ce que c'est pas parce que toi t'aimes bien avoir un univers, enfin tu vois, l'image de sens, quoi, un univers.
Mais bien sûr, mais je ne fais que
très posé.
Mon jugement au cours de ces podcasts one shot ne fait que refléter ma subjectivité. Voilà, je dis ce que je ressens à la sortie de ce jeu. Je prétends pas objectivement dire le jeu est pas bon. Le jeu est. Moi, je pense que le jeu manque de règles. C'est-à-dire au sens où deux pages pour moi c'est pas suffisant en fait pour poser des règles qui soient jouables plus de 20 minutes. Pour moi, en deux pages, on joue 20 minutes. Voilà. Tu vois, j'exagère à peine.
C'est 20 putains de minutes.
Par contre, c'est énorme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, l'intro, elle est énorme.
Ouais.
Énorme. Énorme. Généralement,
je pense qu'il manquerait pas grand-chose, moi.
Je suis assez d'accord. Il faudrait que. En fait, ce podcast me donne envie d'aller voir des rapports de parties d'autres personnes et de comprendre ce qu'ils y ont trouvé. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu, même si, bon, oui, il y a des dimensions qui sont frustrantes, un peu essoufflantes.
Alors là, il faut être très clair. Qu'est-ce qu'on juge ? Parce que si tu vas lire des rapports de parties dans lesquels des gars ont rajouté des règles. Sur... Parce que
je dis pas rajouter des règles. Quelle est l'utilisation de l'outil, tu vois,
oui,
qui est faite ? Quel est l'esprit dans lequel ils utilisent les règles ?
Parce que tu vois, c'est le problème un petit peu aussi des jeux unzippés. C'est que le jeu unzippé.
D'accord, ne te donne pas le.
Et ouais.
Ne te donne pas l'esprit des règles.
Et donc, du coup, exactement. Et moi, Ghost Echo, pour moi, il me fait l'effet d'un jeu qui a l'air d'avoir un grand esprit quand tu regardes les. Franchement, le jeu, moi, il m'a séduit. Hein. Vraiment, je regarde les deux pages et tout, les illustrations chouettes. J'avais l'impression que c'était assez clair et tout. Et puis, en fait, assez rapidement, le rêve s'est effacé. J'ai trouvé ça vraiment. Il n'y a pas assez, quoi. C'est pas assez. Après, voilà, tu me dis, c'est un jeu d'une jam ou je sais pas quoi qui a été fait en 24 heures, en 12 heures. Tu vois, je fais OK. Enfin, c'est. Mais j'en attendais un petit peu plus.
OK.
Et puis, oui, voilà. Alors, là où je voulais en venir, c'est qu'on ne peut pas dire dans certains podcasts jeu manque de règles et il manque des règles pour le rendre intéressant et dire. Pour Ghost Echo, Ah oui, mais non, mais là, j'aimerais bien aller voir comment des gens rajoutaient des rustines pour... Bah oui, mais donc ça veut dire que le jeu, s'il a besoin de rustines pour
le rendre intéressant... J'ai pas parlé de rustines, Rome, attention.
Non, mais...
J'aimerais comprendre ce que d'autres trouvent à ce jeu, tu vois.
D'accord, ok. Ouais, ouais.
Parce que j'ai un peu cette intuition qu'il y a quelque chose d'assez cool dedans. Je me trompe peut-être, hein, je dirais peut-être que le jeu est vérolé, mais j'aimerais comprendre ce que d'autres y trouvent, tu vois. Parce que c'est quand même un jeu qui a eu du... C'est toujours un peu quand t'es face à une œuvre que beaucoup de gens ont aimée et que toi, t'es plus mitigé, voire que tu l'as pas aimée. Enfin, souvent, j'essaye de comprendre ce que les autres y ont trouvé, tu vois. Fly,
Favi.
Moi, j'ai une théorie sur ce jeu. Je pense que sur une table qui a l'habitude de tourner ensemble, où il y a plein de rectacites qu'on a l'habitude d'avoir autour de la table... Je pense que c'est un jeu qui doit très, très bien tourner. Moi, je pense que tu mets à Ghost Echo avec Ced, Thomas et pourquoi pas Yensu.
Oh mon Dieu, Yensu Lee là-dessus. Oh.
Ah ouais. Non, mais c'est des gens qui vont se faire... Là, tu es en train de citer typiquement des gens qui vont se faire chier à ce genre de jeu. J'sais moi, je ne leur ferai jamais jouer à
j'sais
ça.
Je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut carrément... Parce qu'on a des règles tacites. Moi, je pense qu'en fait, c'est un jeu où les règles habituelles d'une table en fait ressortent.
Je sais pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire le tour rapidement avec les dés. Ah oui, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, Fabien, et dont j'aimerais bien parler. C'est cette histoire de partiellement réussi.
Oui, alors ça,
qu'est-ce
je suis d'accord.
Que ça veut dire
le danger se réalise partiellement, et puis l'objectif est en partie atteint. C'est vrai que là, ça laisse beaucoup de latitude au MJ.
Bah ouais, et donc du négoce, comme disait Fly tout à l'heure.
Alors, le problème, c'est pas en soi de laisser de la latitude au MJ. Moi, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que j'aime plutôt que le jeu me dise tu dois déterminer ça précisément, tu vois. Et qu'il y a des moments où je me disais est-ce que je mets assez de danger ? Est-ce que je mets assez de pression ? Est-ce que, tu vois ? Et en fait, il y a des fois où je me disais bon, ben, il est partiellement réussi. En fait, il est atteint en entier, comme ça.
Bah
ça,
ouais.
Ça fait avancer les choses.
Alors, tu vois, et ça, c'est quelque chose que j'ai
constaté. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel j'étais un peu mal à l'aise, c'est clair.
Moi, j'étais complètement mal à l'aise avec ça. Et on le constate, par exemple, dans le fait que quand vous avez fait des doubles 5 ou des doubles 6, il n'y avait pas de discussion. La scène, tu laissais le joueur décrire comment il poutrait le méchant, comment tout se passait bien. Quand il y avait un double 1, pareil, pas de discussion. Le joueur, je revois encore Flavie, se remettre bien profondément dans sa chaise et attendre la sanction. Donc, ça veut dire qu'il y avait des fois où le jet, il était très clair. Double 1, double 6, double 5, double 2.
C'est vrai que quand il y avait un 3 ou un 4, ça faisait chier.
Et puis dès qu'il y avait des 3 et des 4, alors là, ça devenait la foire d'empoigne. Tout le monde commençait à dire oui, bah alors là, du coup, c'est plus ou moins réussi, blablabla. Bon, bref, quoi, c'était pas clair.
Ouais,
c'était pas clair. Et là, du coup, si.
Ça, c'est parfaitement
exact. Parce que moi, ce que j'admirais dans Ghost Echo quand j'ai lu le jeu, c'est que je me suis dit tiens, c'est cool, enfin un jeu de rôle classique, entre guillemets, dans lequel il y a un meneur et des joueurs, dans lequel on nous dit clairement quand lancer les dés. Et c'est ce qu'on a dit en préparation du podcast. C'est cool. Ouais, mais enfin bon, si le lancer de dés, au final, ça permet pas de définir clairement qui l'emporte, bah en fait, l'effet, il est raté, quoi.
Je vais même te dire un truc. En fait, à la fin, j'ai utilisé les 4 et les 3 pour obliger le négoce.
Ouais, j'ai vu
c'est-à-dire
ça.
Que c'est utilisé. C'est, en fait, quand, à chaque fois qu'il y avait un 3, au début, en fait, j'avais tendance à mettre le 3 et les 4 en objectif. Comment ça s'appelle les conséquences parce que je me disais oh, flûte du coup comme ça j'ai réussi mon objectif et en plus je me suis dit mais non je vais réussir mon objectif et en fait je vais pas avoir de conséquences comme ça je vais être nickel et je vais un peu blablater sur l'objectif comme ça je vais en réussir une partie et puis ça va passer comme ça,
ce qui était totalement l'inverse de la façon dont on a commencé à jouer au départ. Au départ on était en mode on s'en fout que le danger subsiste, ce qui compte c'est que notre action cool elle ait lieu. Et ça va rejoindre un dernier truc que je voulais aborder par rapport à ce jeu, c'est quelle est la proposition créative de ce jeu. Et pour moi, c'est évident, c'est clairement du simulationnisme et encore du simulationnisme. Je sais pas ce que t'en penses, Fabien.
Pour que ce soit simulationniste, il faudrait qu'il y ait un canon esthétique clairement.
La coolitude d'un film. Moi, j'ai joué carrément dans la coolitude d'un film.
D'accord.
Moi, je me suis imaginé un film. Moi, je me suis imaginé dans Constantine à un moment.
Oh, ouais.
Et puis les mots qui agissent comme des couleurs. Tu vois, les mots que tu as devant, illustrations, les specs, les mots, les thèmes.
La parade nocturne, tu vois. Je pense que si j'ai pensé à du Blade Runner, il y a une raison, en fait.
Non, moi, je pense vraiment que le jeu...
Bon, ça fait partie des références sous-entendues derrière. Hein,
honnêtement, quand tu lances les dés et que tu les répartis, tu penses à quoi ? Tu penses quelle est l'action la plus morale ?
Non.
Non. Tu penses pas non plus quelle est l'action peut-être la plus optimisée, je suis pas sûr.
Ça peut
tu
être,
penses
ça peut être
quelle
de
est l'action la plus classe
de se mettre,
c'est clair.
De se mettre en avant. Bon.
de se mettre en avant. Oui, mais comment? Par la description, par le truc. T'as envie. Même quand on était brûlé, on était là en mode.
Attends, moments, à la fin, je faisais des bisous sur mes flingues en faisant.
Ouais, c'est clair. Enfin, c'est...
Ah, je sais pas. C'est... Tu fais, oui, pas, tu fais pas ça quand le c'est moment... pas un canon esthétique.
Ouais. Le moment où.
J'ai pas très envie de me lancer dans le débat GNS, mais je pourrais discuter aussi que ça. Je sais pas si c'est très intéressant pour comprendre le jeu.
En fait, moi, j'avoue que le principe. Alors bon, là, on arrive sur un truc. Sur ce que j'estime être les limites du GNS, et je trouve ça intéressant pour réfléchir à comment tu crées un jeu. Mais en fait, moi, ça ne m'explique pas ce que je ressens durant les parties.
Ok, moi, tu sais ce que c'est l'intérêt du GNS pour moi dans les podcasts ? C'est que très souvent, ça lance des bonnes discussions. Parce que franchement, la théorie GNS, moi aussi, je trouve qu'elle a des tas de limites et tout ça. Et d'ailleurs, j'en suis le premier à en parler dans le Maelstrom. Pour moi, ce qui compte, c'est avant tout de se poser des questions. Et après, l'orientation de ces questions dépend... voilà. Après, c'est cool d'avoir une grille d'analyse de l'orientation des questions. Ça, c'est clair. C'est cool. Le GNS a apporté tant de choses, énormément de choses. Mais pour moi, c'est avant tout aussi un moyen de sonder votre âme, de sonder ce que vous avez pensé autour du jeu. Parce que si Fabien, imaginons que là, Fabien, il m'ait dit « Ah non, non, c'est clairement pas Sim. Hein. Moi, j'étais là en mode ludiste, en train de me dire « Il faut que je les pourrisse, il faut que je sois le meilleur, etc. » Ça aurait lancé une discussion sur la manière dont il avait vu la fiction et la manière dont il avait vu la partie. Et de ces discussions-là émergent très souvent des analyses très, très fines des jeux et des systèmes. Donc pour moi, le GNS... En termes de podcast, je révèle un petit peu aux auditeurs ma tambouille d'animateur. C'est que pour moi, c'est un excellent moyen en tant qu'animateur de relancer une discussion qui s'éteint.
Je pense que je peux quasiment toujours te répondre la même chose. Hein. Je joue Sim. Hein.
D'accord. Bon, oui, mais c'est.
Ah oui, c'est pas parce que tu joues Sim que le jeu encourage telle proposition.
Mais par exemple, il y a les scènes que j'ai trouvées les plus cool, c'était souvent des scènes très esthétiques. La scène où tu nous décris le gros chérubin gras devant la porte en train de garder, tu nous as mimé le truc. Que j'y passe ? J'ai l'impression d'être dans Duke Nukem. Ça m'a fait vraiment penser à Duke Nukem. Et j'étais là, putain, c'est trop bien et tout. T'as envie de sortir des guns et de lui. Vraiment, il y avait un côté Doom-like. La scène de fin avec la tour où on monte et tout ça, j'avais l'impression d'être à la première personne. Ces enfoirés d'anges, ils m'ont buté ma bagnole. C'était vraiment en mode... Et ça m'a fait super triper. Et en fait, le fait qu'à chaque fois, comme ça, en écoutant en fait, les idées que Fabien trouvait pour jouer l'adversité, ça me fasse penser à des canons esthétiques de jeux, de films, etc. Je me dis, c'est vraiment propre.
C'est vrai que, tu vois, d'une certaine manière, ce qui est difficile dans ce... Enfin, ce qui est compliqué dans cette expérience, c'est que... passer la première scène, moi, je dirais, je tiendrais peut-être un petit peu plus longtemps que toi. Bon, mais au bout d'un moment, le jeu m'empêchait de m'amuser.
Mais oui.
Tu vois, il y a des moments où le jeu m'empêchait de m'amuser. Et à la limite, j'aurais presque préféré qu'on se raconte les choses en système 10-0. C'est-à-dire, le meneur de jeu décide
de tout.
À le fin mot de l'histoire systématiquement. Quoi.
Ouais.
Sans doute qu'on se serait plus amusé qu'à devoir lancer des dés, puis après à devoir négocier. Alors, merde, c'est un 3 et un 4. Bon, alors qu'est-ce que ça se passe ? Ça te va si on se fait comme ça ? Et puis, tu vois, enfin.
Alors, juste pour rendre justice au système 0, quand même, parce que là, on l'a caricaturé et ce serait dommage de...
Pardon, je disais ça sans connaître le système 0.
Okay, le système 0, c'est juste le système quand on n'a pas de règles, entre guillemets, qui nous sont données par le jeu, c'est les règles de base à laquelle se réfère une table donnée pour gérer une situation. Il y a une situation, on n'a pas de règles pour la gérer, hop, là on se réfugie dans le système 0.
C'est spécifique à chaque table.
Le système 0 est spécifique à chaque table. C'est-à-dire que c'est vraiment un système au sens de la forge. C'est pas des règles. Les règles 0.
C'est ça que je voulais dire tout à l'heure en parlant de règles tacites.
Il faut rendre quand même justice au
concept.
C'est ça que je voulais dire en parlant tout à l'heure de règles tacites, où je disais qu'en fait c'est un jeu qui mettait ça en avance autour d'une table.
Voilà. Et c'est vrai que la plupart des systèmes 0 pratiqués dans le jeu de rôle des routards, le système 0, c'est le MJ. Comme on dit souvent, c'est caricaturé en disant c'est le MJ qui a toujours raison. Mais encore une fois, c'est propre à chaque table. Par exemple, nous à la Baronnie, notre système 0, c'est très souvent si c'est cohérent, ça passe. Voilà, c'est ce que j'expliquais dans le sens précédemment.
Donc voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on se serait, à partir d'un certain moment, plus amusé simplement...
Mais en fait, il y a un moment donné où ce jeu, il ressemble... Moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait carrément à ce qu'on reproche en général aux machines à saucisses. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on lance les dés, en fait, et puis, vas-y, raconte.
Alors,
lance les dés, raconte.
Ouais, alors en moi, tout... par contre, moi, par rapport à... Pour rendre, par contre, vraiment justice à ce jeu-là, moi, je ne me suis pas trouvée en position d'auteur.
Ah bah dis donc,
enfin,
c'est pas ce qu'il te faut.
Pas,
tu décides de l'univers.
Pas auteur dans mon coin. J'ai vraiment eu l'impression de papoter. Enfin, il y a des jeux où vraiment je me fais chier dans mon coin et je suis obligée de créer mon histoire toute seule, quoi. Là, moi, j'ai vraiment eu des moments où je participais avec vous, quoi. J'étais pas toute seule dans mon coin.
Mais ça, enfin moi, pour moi, en fait, c'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est quand tu lances les dés et que, en fonction du résultat du dé, tu dois raconter quelque chose qui t'est décrit dans une base. En me dire, raconte comment ton personnage échoue, raconte comment ton personnage réussit, et que tu finalement les réussites et les actions ne dépendent plus de la fiction, mais uniquement des lancers de dés. Pour moi, c'est là que le pas de la mécanique prend le dessus sur la fiction. Ouais. Et c'est là qu'on arrive. C'est la partie d'échec qui détermine quelle fiction on raconte et pas l'inverse. Enfin, il n'y a pas
d'interaction. J'ai l'impression que bon, pour enfin, j'aime pas trop quand tu parles de machine à saucisse, mais c'est vraiment un autre problème. Pour revenir à Ghost Echo spécifiquement, je pense que la difficulté, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, c'est le fait que finalement on n'a pas de fiction qui nous pousse à faire avancer les choses.
C'est ce que je dis.
Tu vois, on n'a pas, on se dit pas. Donc nous, on avait sauvé le monde et invoqué Satan. Mais bon, voilà, c'est un objectif. Ça aurait pu être à peu près n'importe quoi d'autre, en fait. Donc, ce n'était pas un objectif. Fictionnellement, ça ne nous tenait pas tellement à cœur. Ce qui faisait avancer la fiction, c'était beaucoup plus simplement les lancers de dés.
Oui. Bah, c'est...
Et je pense que si on avait eu les deux à la fois, ça aurait pu être vraiment intéressant. Tu vois, le jeu pourrait être vraiment cool si tu avais les deux à la fois et si on réglait un peu cette histoire de partiellement. Tu vois, que ce soit...
D'accord. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si c'est une machine à saucisse ou pas au sens où toi tu le définis, mais non, quand ce que tu viens de décrire, par exemple, d'employer ce terme, je sais bien. Mais ce que tu décris là, c'est exactement ce que moi j'appelle quand c'est la mécanique qui nous pousse à décrire de la fiction, et quand c'est plus la fiction qui se détermine elle-même, supportée par des mécaniques ou aidée par supporter. J'entends supporter au sens anglo-saxon, mais c'est pas ça. C'est soutenu, voilà, soutenu par des règles. À ce moment-là, pour moi, on entre dans le cadre d'une d'un truc dont je ne dois plus prononcer le nom, apparemment. Mais voilà, c'est ce que tu décris là, c'est exactement moi cette sensation que je n'aime pas dans les jeux. Ça, j'aime pas ça. Quand il y a un moment donné dans ce jeu, j'avais juste envie d'arrêter de jouer, quoi. De dire bon, c'est bon, on en a vu assez là.
Moi aussi, au bout d'un moment, hein, je dis, on sait aussi. Quand il y a eu l'attaque de Mickey Mouse et ses claquettes, ses claquettes hamburger, ou la hache Windows à Bill Gates, je commençais aussi à. Et pourtant, on avait joué 2 heures, quoi, ce qui n'est pas énorme tant que ça.
L'autre truc, c'est le mot bande. Je ne l'ai pas compris dans le jeu Ghost Echo. C'est quoi la bande ?
Comme un groupe, un groupe de PJ.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu nous avais choisi 2 noms différents pour la bande ?
Parce que c'est les archétypes.
C'est les archétypes.
C'est les noms des personnages. Ils peuvent s'appeler soit Volute, soit Démon, soit Carapace, soit Cerf, soit Renard.
Ah, d'accord. Ok. En fait, on choisit notre nom. D'accord. Et ce nom va influencer évidemment grandement la façon
dont on va faire
la suite. D'accord. Donc, le nom va servir de couleur, en fait, pour jouer.
Voilà.
Intéressant. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à aborder autour de ce jeu ou est-ce qu'on a globalement fait le tour ? Je pense qu'on l'a bien débriefé.
Comme dit, moi, je reste sur mon idée que c'est un jeu qui a des limites, mais... Tout n'est pas acheté. Il y aura des choses intéressantes à faire avec. Et j'aimerais comprendre ce que d'autres y ont trouvé. Tu vois, j'aimerais bien que les auditeurs me disent ce que eux aiment dans ce jeu, s'ils l'aiment, et ce qu'ils en retirent.
Bah moi, pareil, évidemment. Évidemment. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir parce que... Voilà, s'il y a beaucoup, c'est vrai qu'effectivement, s'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce jeu...
Parce que je continue à m'interroger sur à quel point nos propres particularités et peut-être la manière dont j'ai transmis le jeu pourraient avoir induit une dynamique qui fait que tu t'es pas amusé dans la partie, tu vois, et que même Flavie et moi, au bout d'un moment, on tirait un peu la langue.
Pourtant, j'étais à fond.
Ouais, mais quelqu'un à un moment on n'avait plus envie, quoi, tu vois.
Ouais.
Voilà, je m'interroge. C'est un peu une énigme parce qu'il y a aussi des trucs qui me plaisent beaucoup dans le jeu, donc je suis un peu mi-figue, mi-raisin, finalement.
Moi, je terminerai en disant qu'il y a des choses qui plaisent beaucoup, moi aussi, mais je pense que malheureusement, c'est un jeu qui n'est que 2 pages et qui reste une ébauche de jeu, en fait, pour moi. Et qui n'est faudrait qu'il y aille plus loin.
Est-ce que 2 pages, en fait, on parle souvent de l'esprit des règles. Est-ce que 2 pages sont suffisantes pour transmettre l'esprit des règles ? Ça, c'est le premier problème. Et moi, le deuxième problème, quand même, que ça soulève, la question que tu poses, Fabien, qui est abyssale, Bon, évidemment, vous savez hein, que de toute façon, les avis dans ces micros n'engagent que les gens qui les tiennent. Je me demande du coup, enfin, jusqu'où ça ne remet pas carrément en question finalement l'émission elle-même. Parce que à partir du moment où tu dis, oui, il y a... Comment dire ? Est-ce qu'on... Enfin, quand est-ce qu'on est légitime à... Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est, ouais, jusqu'où j'ai... Est-ce que moi... Mais ça, c'est la problématique de tous les one-shots, tu vois. D'ailleurs, tous les meneurs de jeu qui ratent un jeu, c'est-à-dire ouais, qui ont la sensation, qui disent à la fin d'un podcast de la cellule, j'ai raté. Par exemple, je prends Globo, quand il nous a fait tester Sombre, il est sorti du podcast, il était dépité, le pauvre. Il disait, j'ai raté, je ne vous ai pas transmis le jeu, etc. Et je, tu vois, là, j'ai la sensation que tu sors un peu de ce podcast avec une sensation similaire, même si tu dis, bah, ça repose
non,
pas...
Non, à nouveau, une... je ne suis pas fou amoureux du jeu. Ouais, d'accord. Mais vraiment, là, c'est pas... J'avais... Et puis, je ne suis pas venu en me disant, ah, je vais leur transmettre Ghost Echo, ils seront... Enfin, parce que je n'aime pas le jeu à ce point. Mais je m'interroge très sincèrement sur...
Mais moi, en fait, si tu veux, moi, cette interrogation-là, juste pour te dire, je l'extrapole à tous les one-shots dans lesquels j'ai trouvé les jeux.
Il faudrait aussi se poser la question quand le jeu nous plaît, quoi. Tu vois.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est-à-dire, est-ce que finalement, mais ça, c'est des questions qu'on a déjà eues, tu vois.
Oui, bien sûr.
Est-ce que finalement, est-ce qu'on se serait autant amusé si on avait été différent et si on avait, enfin, bon.
Non, mais bien sûr, mais c'est ça qui m'amuse aussi.
De toute façon, les limites de l'émission One Shot, on les connaît. C'est aussi pour ça qu'on a envisagé de faire une émission qui s'appelait Campagne,
hein, qu'on très est en train difficile. De faire. Très
compliqué à mettre en place, mais voilà.
Très
et, difficile. Et voilà, on les connaît, on sait très bien que c'est subjectif sur une, voire deux parties. Voilà, on ne va pas épiloguer là-dessus pendant des heures. Je veux dire, on connaît les limites de One Shot, on les a déjà exprimées. On pourrait le dire à chaque fin de one shot.
Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que je me demande si finalement à chaque fois les jeux devraient pas être présentés par des gens qui ont la foi dans les jeux. C'est-à-dire, je me demande jusqu'où
ça a déjà été le cas.
Le fait. Oui, bien sûr. Mais justement, est-ce que ça devrait pas toujours être
systématique ouais. Oui, c'est vrai que là, on s'est lancé un peu dans.
On s'est lancé dans un podcast.
Moi, je le connaissais. Toi, tu m'as dit ah, ça a l'air cool et j'aimerais bien le tester. Ouais. Mais ce qui est une démarche légitime aussi, tu vois.
C'est-à-dire qu'on bien sûr.
On peut pas dans une émission one shot dire ah, ça va être une émission exclusivement de.
Bien sûr, mais
ça me poserait aussi un vrai souci. C'est, je pense que du coup, on se contenterait de faire appel à des spécialistes ou à des experts. Or, un jeu doit aussi pouvoir être pris par quelqu'un qui ne le connaît
experts,
pas.
Justement. Le passionné n'est pas forcément un expert.
Le jeu doit pouvoir aussi être pris par quelqu'un qui ne le connaît pas et être masterisé tel quel.
Ça, je suis d'accord avec Fly.
Et je pense que One Shot, on teste de tout. Alors, on a toutes les méthodes. Et au moins, ça a le mérite d'être fait. Parce qu'il y a des jeux, il y a des gens, ils en parlent et ils ne les testent même pas.
Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais voilà. Non, mais c'est juste une question qui m'intéresse beaucoup. Je me dis, tiens, est-ce que finalement, tu vas prendre un jeu comme ça et le tester de
ouais, blanc, c'est-à-dire qu'à nouveau, ça, c'est un peu un problème dû au podcast, à la forme même
tout à
du
fait.
Podcast.
Tout à fait.
Au fur et à mesure des années, je réfléchis un peu aux limites même de la forme du podcast. Je pense que il y en a une qu'on connaît depuis longtemps, qui est on a l'impression dans les podcasts que comment dire, il y a cette frustration quand on écoute un podcast que moi j'ai aussi. Hein. Systématiquement dans le podcast, on dit ah mince, il aurait fallu qu'il parle de ça, il aurait fallu parler de ça.
Et nous c'est pareil quand on éteint les micros d'ailleurs. On dit ah merde, on a oublié, regarde.
Parce que le podcast est limité dans le temps et que, enfin, moi quand j'écoute un podcast, j'ai toujours envie d'intervenir parce que j'ai toujours un peu ce côté. J'ai l'impression de faire partie de la conversation, mais que je suis dans un coin et que j'ai pas le droit de parler, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est un vrai. Ça, c'est dû au médium podcast.
Bien sûr.
Le deuxième problème, c'est ce côté, je sais pas comment le dire, mais invasif. On a l'impression que quand on dit les choses, on les dit. Un peu de façon absolue, ex cathedra.
Comme dans une discussion entre potes, en fait.
Ouais.
Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont que vos potes.
Et le problème, c'est voilà, il faut réintroduire de la relativité dans le propos, dans la.
Bah ouais, mais.
Mais qui est difficile quand on essaye en même temps d'exprimer une critique, de fonder une critique, d'exprimer une critique.
Ouais, tout à fait. Mais bon, dire dans les commentaires, vous qui aimez ce jeu, dites-nous pourquoi vous l'aimez et nous sommes à l'écoute, nous pouvons comprendre, etc. C'est pas parce qu'on a
fait. C'est pas une question de nous sommes à l'écoute. Tu vois, on est pas. Enfin, je suis pas en train de prononcer un jugement et de parce que là, tu j'ai l'impression que tu le présentes comme ça. Moi, ça m'intéresse vraiment intellectuellement, enfin intellectuellement et même ludiquement, de comprendre pourquoi d'autres personnes l'apprécient.
Bah, c'est ça que j'entends par nous sommes à l'écoute.
Ouais, mais quand tu dis nous sommes à l'écoute, on a l'impression que c'est un. Oh, nous allons écouter votre. Votre jugement et puis
c'était pas comme ça que je le disais mais d'accord
la formulation est pas idéale quoi.
Ben, je pense que les gens ils lisent les commentaires aussi des podcasts d'accord. Et que si des passionnés viennent dans les commentaires le jeu est bon pour ça Romaric t'as merdé, t'as dit de la merde, regarde sur Vampire hein, regarde l'effet sur Vampire, quand j'ai dit de la merde les gens sont venus me corriger, tout le monde a su que j'avais dit de la merde, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense aussi que il y a un rôle du commentaire dans
sûr,
les podcasts
bien
c'est
bien
ça sûr. Quand je dis nous sommes à l'écoute c'est un nous peut-être aussi élargi, c'est-à-dire les auditeurs qui écoutent aussi ce podcast lisent les commentaires, je pense. Et puis même, si on lit un commentaire, par exemple, sur ce podcast qui concerne notre démarche vis-à-vis d'autres jeux ou quoi, il est fort possible qu'après, quand on teste d'autres jeux, on fasse l'effort de s'adapter. Mais je veux pas avoir la sensation de parler d'en haut, mais malgré tout, Fabien, il faut bien qu'on ait conscience que c'est nous qui parlons dans les micros.
Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je te dis. C'est dû à la forme même du podcast.
Voilà.
Et que c'est une limite indépassable.
Bah oui.
Oui, tout à fait.
Ouais.
C'est ça. Cette sensation de parler d'en haut, ben.
Parce que moi, j'arrête pas justement de dire que ce n'est qu'un avis de pote. Donc je suis pas là en train de dire je suis le dieu, je donne mon avis d'en haut. Au contraire, je dis justement, prenez-le, mais exactement comme le faisait Marcus dans Chez Marcus, qui est, vous savez, comme chacun sait, mon idole. Enfin, je veux dire, c'est Marcus, quand il présente son jeu dans Chez Marcus, ou à l'époque, c'était sur Game One, dans sa première émission. Putain, voilà que je m'en souviens plus. C'est ouf. Retro Game One. Non, c'était pas Retro Game One, c'était l'autre. Bon, bref, il disait toujours, voilà, c'est un avis. Imaginez, un pote vous invite, il vous présente un jeu, il vous donne son avis. Et ce n'est qu'un pote. Il ne se présentait pas comme moi, Marcus, grand journaliste de jeux vidéo, qui ai tout vu, tout fait. D'ailleurs, Marcus ne se présente jamais comme ça. Il se présente toujours comme étant juste un joueur comme les autres. Alors qu'en fait, honnêtement, c'est un vrai professionnel et un vrai spécialiste. Mais voilà, justement pour ce côté accessible. Ouais. Donc, tu as l'air sceptique, Fabien. Je te sens.
Non, je suis très fatigué.
D'accord, ok.
Je l'étais déjà au début du podcast.
Tu as l'air sceptique quand tu es fatigué.
et puis, le podcast, le jeu lui-même m'a pris beaucoup d'énergie, ouais. C'est clair.
Très bien. Eh bien, merci, Fabien, en tout cas, de nous avoir présenté ce jeu hystérique qui présente des aspects. Hystérique, j'ai dit. Hystérique, qui présente des aspects de game design, en tout cas très intéressants, à la fois par le fait qu'il soit très peu fourni en nombre de pages, qu'il ait beaucoup de couleurs, à mon avis, qu'il invite énormément à jouer justement dans l'esthétique, etc. Et puis aussi par ses dés hein, qui répartissent comme un peu comme Siron, hein, ça fait un peu une redite de Siron.
De la même manière, je me demande si ma relative sympathie pour le jeu ne vient pas de ce que j'apprécie. La tentative, tu vois, même si la tentative n'est pas réussie, ouais. J'apprécie que l'auteur se donne un défi et qu'il essaye de le relever. Il peut se planter, mais au moins il fait quelque chose qui est audacieux, tu vois.
D'accord.
La chance ne sourit, semble-t-il, pas toujours aux audacieux, mais en tout cas, je trouve.
Ça pourra l'amener à faire que.
La tentative me séduit, me plaît, tu vois.
D'accord.
Avec ses limites. Mais je la trouve intéressante quand même.
Tu préfères quelqu'un qui fait un jeu de deux pages ambitieux que quelqu'un...
Je préfère quelqu'un qui fait un jeu ambitieux et qui se rate plutôt que quelqu'un qui fait un jeu pas ambitieux et qui atteint ses objectifs. Tu vois.
D'accord, ok. Ouais. Tu sens de l'ambition tu sens de l'ambition dans Gosseko.
Nécessairement, si tu veux. Ouais, au moins dans sa forme. Au moins dans sa forme.
Ouais.
Voilà.
Ouais, d'accord, ok. Très bien, merci Fabien, merci Flavie. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien.
Ciao.
Et surtout jouez bien de toute façon. Ne vous fiez pas uniquement aux avis de la cellule. Téléchargez tous ces jeux dont on parle.
En plus, celui-ci.
Faites-vous votre avis. C'est ça qui compte, bien sûr.
Salut, hein à la prochaine.
Salut.